Ravi de vous retrouver sur les 107.6 à Cayenne, 89.2 à Saint-Laurent-du-Maroni. J'accueille Stéphanie Delcroix. Bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Alors, vous êtes lauréate du concours Regard 2020. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consistait ce concours ?
Oui, donc ce concours donc il a été fait presque, je dirais, dans quelques mois, il y en a. Donc avait en fait le nom de Société, Culture et Politique et en fait Handicap et Citoyenneté. Du coup associé je crois que c'était une manifestation qui se faisait certainement en métropole en novembre, du coup je pense même de l'année dernière, je suis pas trop exacte sur les termes mais ça fait presque un an. L'objectif était de réaliser en fait une œuvre avec des thématiques plus ou moins définies, donc il y avait des catégories. Et chaque personne était invitée donc à réaliser une œuvre et la soumettre en fait à ce concours.
À la base, vous êtes passionnée de peinture, d'art, c'est cela ?
Oui, enfin, passionnée, oui. Disons que j'ai commencé à dessiner assez jeune et rapidement. Je me souviens d'ailleurs de mes premiers cahiers de poésie où l'envie d'un côté la page blanche et d'un côté la poésie à prendre. Certes, la poésie était quelque chose qu'il fallait savoir par cœur, mais je passais beaucoup plus de temps à dessiner les pages blanches qui se trouvaient à côté.
Comment est née cette passion pour l'art ?
De tout petite que je me rappelle, je voyais mon oncle, pareil, qui lui aussi est autodidacte, dessiner à main levée en fait et à reproduire donc tout ce qu'il pouvait trouver devant mes yeux. Et je pense un petit peu aussi ma maman, qui elle, quand elle écrivait des lettres ou qu'elle écrivait des poèmes, en fait tout autour elle mettait déjà des lianes avec des fleurs et des petites feuilles de couleur. Donc peut-être que, en tout cas, j'ai cette image là qui vient. Donc je pense voilà l'inspiration de mon oncle et je pense également un petit peu de ma maman.
Le fait de peindre, est-ce une façon pour vous de vous déconnecter de la réalité, du quotidien ?
Effectivement. Je crois que c'est Herzog qui disait que dessiner suspend la pensée. Et je pense que je rejoins là-dessus dans le sens où lorsqu'on l'on peint, que l'on dessine, peu importe l'art d'ailleurs, je pense et j'imagine, même lorsqu'on sculpte, on est vraiment dans le moment présent et dans ce qu'on fait. On n'est plus dans la précipitation de ce qu'on doit faire ou de ce qu'on aurait dû faire. Donc je pense que c'est pour ça que j'apprécie vraiment ces moments-là, parce qu'ils me permettent en fait de stopper complètement tout ce qui se passe, en fait, tout ce qui se passe autour. Hein. C'est ça.
Vous fuyez notre réalité, vous voulez fuir notre actualité, tout ce qu'on peut entendre de triste, surtout en ce moment avec la pandémie Covid-19.
Alors fuir, non, on compose avec. Non, on compose avec, donc on peut lutter aussi, on peut lutter contre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait donc dans le biais de mon travail principal qui est donc avec mon association. Donc j'ai lutté contre ce Covid-19. Donc non, je fuis pas. Et puis justement, l'art permet aussi de faire passer des messages. Et puis voilà, ça peut être des messages positifs aussi pour l'avenir.
Il faut
s'y croire.
Vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur cette association à laquelle vous contribuez, à laquelle vous collaborez.
Oui, donc c'est l'association Idées Santé. Donc ça va faire un peu plus d'un an maintenant que donc, je travaille au sein de cette association en tant qu'animatrice de prévention. Donc essentiellement en santé, donc en vie affective, sociale et sexuelle, pardon, auprès des enfants, donc surtout dans les établissements scolaires, donc primaires et collèges. Donc voilà,
L'idée est de faire passer quel type de message à ces enfants ? De leur dire quoi ?
C'est leur redonner, ce pouvoir d'agir, en fait, tout simplement. Je pense que c'est leur redonner cette place qu'ils méritent, cette voix, en fait, qu'il faut écouter et qu'on peut entendre. C'est leur redonner les pouvoirs de leur corps, mais aussi de leur pensée critique, c'est aussi les ouvrir sur d'autres possibilités, d'autres alternatives.
Mais est-ce que vous pouvez être plus concrète?
En matière, par exemple,
de sexualité.
J'étais tout à fait là-dedans. C'est d'accepter l'orientation sexuelle. Donc, je vais aller sur ça parce que mon œuvre a été essentiellement axée sur ça. Mais c'est d'accepter finalement que l'amour n'a pas de sexe, n'a pas de visage. C'est un cœur. On aime une âme, on aime quelqu'un. On ne tombe pas amoureux d'un homme, d'une femme, on peut être amoureux d'un homme ou d'une femme. Donc je voulais vraiment aller là-dedans. En tout cas, c'est là-dedans où je suis allée, donc c'est l'intuition que j'avais. Et puis, donc c'est accepter toutes ces orientations sexuelles qui puissent exister autour de nous, tout simplement.
Est-ce que vous comprenez que ça puisse, de tels propos, encore aujourd'hui, choquer certains de nos auditeurs ou des parents, tout simplement, parler plus largement.
Je l'entends, on l'entend, on y est confronté. Donc c'est pour ça qu'on vient faire, nous, de la prévention, et on vient surtout dans un aspect positif, de dire que, comment je pourrais expliquer ça ? On ne va pas dire à quelqu'un que c'est pas normal d'aimer une personne qui a le même sexe que nous, pourquoi ça ne le serait pas ? Qu'est-ce qui est anormal ? Qu'est-ce qui l'est finalement ? C'est quoi cette normalité ? Qu'est-ce qui n'est pas normal ?
Mais c'est un discours qui a du mal à passer, surtout en Guyane, on sait bien. Et le fait de...
D'où l'affiche « Les baisers » et « L'amour ne fait pas de distinction ». C'est ça.
Et comment parvenir justement à convaincre cette frange, je dirais, de la population qui a encore beaucoup de mal, au fait, à admettre ce discours qu'ils peuvent qualifier de mondain, de diabolique, puisqu'on entend plein de choses autour de ça. Est-ce que vous arrivez à trouver des mots pour l'expliquer, pour l'argumenter auprès des parents qui pour lesquels il y a clairement un obstacle, il y a clairement un frein à ces discours?
Non, on l'entend. Après, moi, je l'insère dans mon quotidien. C'est-à-dire que lorsque je vais parler aux élèves, pour être vraiment, vraiment, même aux élèves ou aux adultes, parce qu'on intervient aussi dans d'autres dimensions, je fais de l'oralité inclusive. C'est-à-dire que je ne vais pas axer sur, par exemple, je ne vais pas dire son partenaire, je vais dire ça ou son partenaire, je vais dire il ou elle. Je vais laisser l'ouverture et la possibilité sans imposer non plus de dire c'est comme ça qu'on doit penser. Je vais juste ouvrir l'esprit en disant qu'il y a d'autres alternatives. Tout simplement, c'est essayer de l'inclure d'une manière assez... je ne vais pas dire normal, mais qui compose avec le quotidien, tout simplement. Je ne vais pas le minimiser, je ne vais pas le banaliser. Je veux dire monsieur, madame, comme on dit monsieur, madame, ça va être pareil, il ou elle, son ou sa partenaire.
D'accord. Donc, en clair, c'est de dire, d'expliquer aux enfants que au-delà du sexe, ils peuvent être amenés à tomber amoureux d'une personne qui les ressemble ou qui pourrait être éventuellement du même sexe qu'eux.
C'est ça, et puis c'est pas un choix définitif. Je veux dire, c'est peut-être quelque chose qu'ils ressentent à l'instant T. Ça veut pas dire que dans les 5-10 années à venir, ça va pas être quelque chose qui est évolutif. Ça peut être évolutif, l'orientation sexuelle. Donc, je le vois comme ça. Donc, c'est comme ça que... En tout cas, j'ai envie de le transmettre.
D'accord. Et ça, vous avez des cas ou des amis qui ont connu cela. Ce sont des choses que vous avez vécues, que vous avez observées.
Ouais. C'est des témoignages, voilà. On discute avec des gens. Même ma meilleure amie jeune m'a avoué son homosexualité en pensant que j'allais la rejeter pour ça. Et donc ma première, je me rappelle, j'avais à peine 14 ans, parce qu'elle l'a su jeune, elle a su assumer complètement son choix, ce fameux coming out, mais surtout elle a assumé ce qu'elle était, son orientation sexuelle, et je lui ai dit, mais en quoi le fait est que tu aimes les femmes puisse être un frein à notre amitié? C'est pas cela qui définit une amitié, qui définit notre amitié. Donc voilà, après ça c'était au plus jeune, mais plus récent, j'ai eu l'occasion de regarder des courts-métrages lors de festivals qui sont ici faits de toute façon à Saint-Laurent-du-Maroni comme le FIFAC ou d'autres courts-métrages où on voit des personnes complètement s'exiler, s'extrader de la Guyane, parce que c'est des témoignages de Guyane que j'ai eus, parce qu'ils ne peuvent pas vivre tout simplement comme ils l'entendent. Donc c'est des témoignages, et puis bien sûr il y a des gens autour de moi qui eux sont dans une orientation sexuelle différente de celle qu'on nous
de la majorité,
et on sent aussi que c'est quand même quelque chose qui est difficile ici encore, on ne peut pas être qui on veut quand on le veut et à quel moment on le veut. Voilà, il y a toujours cette espèce de Damoclès qui quelque part survole au-dessus de leur tête, et ça m'a touchée énormément en fait, parce que pour moi d'être rejeté par les siens, d'être rejeté parce qu'on a choisi d'aimer une personne du même sexe que nous, de sortir de le... Vraiment, parce que c'est s'extrader, on entend des extraditions, il y a des gens qui sont vraiment rejetés à moyen de s'exiler en métropole. Ça me fait mal au cœur en fait, ça veut dire qu'on s'arrache de nos racines, de nos terres. C'est dur, enfin, pour moi ça a été dur. Donc, je voulais vraiment, je suis allée dans ce côté-là de l'égalité. Je prenais l'amour universel.
Vous êtes une ambassadrice du mouvement LGBT?
Pas confirmée, mais en tout cas, disons que j'accepte absolument. De toute façon, je n'ai aucun problème avec les orientations sexuelles que les gens peuvent avoir, puisque c'est leur choix. Hein. Je veux dire, c'est comme tout. Hein. Tant que la liberté d'autrui n'empêche pas la mienne, je ne vois pas en quoi. Non, moi, si les gens ils sont heureux, ça me va. Ouais. Pas.
Stéphanie Delcros, lauréate du concours Les Regards 2020. Vous nous avez parlé de ce concours, en quoi il consistait. Donc, vous avez été jugée sur une affiche.
Oui.
Est-ce qu'on peut revenir sur le contenu de cette affiche qui vous a permise d'obtenir ce titre,
d'être regardé? c'est une affiche en fait, justement c'était avant le 17 mai, donc la journée mondiale justement contre l'homophobie, vraiment, et c'est une affiche en fait de baiser, voilà. Donc on voit des protagonistes s'embrasser, donc, mais sans jamais découvrir leur visage. On voit uniquement des lèvres, en fait, tout simplement, des lèvres qui s'effleurent, des lèvres qui se caressent. Et à la fin, je conclue juste sur mon message en disant, on se demande sur vraiment les motivations qui poussent les gens à distinguer, qui se cachent derrière, au final. Donc c'est ça, moi j'étais juste dans l'idée de montrer l'amour juste au travers de la rencontre avec l'autre, donc le baiser, et voilà, donc c'était vraiment ça, l'idée c'était ça, c'était de cacher les visages pour ne pas laisser la place à la distinction finalement de l'être, donc voilà.
Et c'était la première fois que vous participiez à un tel concours?
Oui, vraiment la première fois. J'ai vu ce concours dans mon fil d'actualité Facebook, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de participer.
Il y a eu plusieurs lauréats d'ailleurs.
Oui, vous n'étiez pas
la seule.
Ah non, et d'ailleurs c'est extraordinaire, c'est ce que je disais du coup à Florence Faberon, que cette initiative a été, même je pense, gratifiante pour tous les gens qui y ont participé. Il y a quand même eu, donc on l'a su plus tard, mais 101 œuvres de réaliser, 30 qui ont été présélectionnées. Des lauréates un peu moins, mais finalement, on se dit, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont envie d'être regardées.
Est-ce que il y avait un cahier des charges à respecter dans le cadre de ce concours? Est-ce qu'il y avait des consignes, des instructions de données?
Alors, de mon souvenir, pas réellement. Donc, on avait la thématique. Donc, par exemple, moi, c'était égalité. Donc, il y avait soit promouvoir l'égalité, soit lutter contre des discriminations. Donc, ça, c'était vraiment, je pense, des objectifs dans lesquels on nous axait. Après, je ne pense pas qu'il y avait plus ou moins de restrictions, j'allais dire, sur l'œuvre en soi. On pouvait la faire d'une manière hybride, comme je l'ai dit, avec des photos, avec des dessins faits à la main. J'ai pas vu l'ensemble des œuvres, j'en ai vu quelques-unes. Donc, non, pas réellement de restrictions, pas à mon souvenir.
Qu'est-ce que l'égalité évoque pour vous? Est-ce une idéologie? Est-ce un terme philosophique? Quel sens que ce mot incarne pour vous?
Alors, égalité, mais j'aime aussi le mot équité. Davantage. Donc j'écoutais justement, il n'y a pas si longtemps que ça, une dame qui reprenait ce mot-là et qui disait, c'est vrai que le mot équité permet en fait toujours d'être dans cet équilibre, de ne pas toujours avoir une personne supérieure à une autre. L'égalité, pour moi, je trouve que c'est important dans les relations humaines, finalement. Dans toutes les relations humaines, pas juste dans la fiche que j'ai faite, comme la parité, on dit en femme, il y a eu la journée des droits des femmes le 8 mars. Moi, je pense que pour moi, il est important d'arriver à cette équité-là pour que le monde peut-être aille mieux. Donc c'est ça.
C'est quelque chose que vous aimeriez voir,
que je défends,
que vous défendez, mais dans la réalité, elle existe très peu.
Alors c'est très peu, il ne faut pas dire ça, il y a quand même des choses qui sont faites. Et si on voit vraiment, si on voit des...
Vous faites référence à la parité en
oui,
politique.
Oui, voilà, les frais, non, alors peut-être pas politique, mais disons oui, il y a ça aussi, mais même chronologique de tout. Enfin, je veux dire, l'accès au droit de vote des femmes, si on recule en arrière, bon, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont été améliorées. Donc oui, évidemment, ce n'est pas partout dans certains pays. Il y a des droits qui sont plus avancés, d'autres moins.
En Guyane, par exemple, on a le problème du logement, où on a énormément de bidonvilles, énormément de logements insalubres. On a l'accès à l'eau, qui sont des réalités auxquelles nous sommes confrontés et qui ne nous empêchent pas, finalement, à nous, qui avons peut-être des moyens de continuer à voyager, de vivre comme si rien n'était, tout en côtoyant ces gens. Alors, peut-on, en toute franchise, en toute sincérité, dans une telle configuration, parler d'égalité sans rentrer dans l'égalité peut-être homme-femme, où effectivement on peut constater les efforts et les avancées qu'il y a eu? Je veux dire, la lutte pour l'égalité, plus que jamais, elle est manifeste, elle est une réalité. Et quel travail faites-vous de votre côté pour combattre justement cette inégalité?
Mais disons que, alors moi je pense
pour
que
aller,
c'est un petit peu comme
au-delà des mots.
C'est un petit peu comme le petit colibri, chacun doit faire sa part. Si chacun,
ouais, mais s'ils n'y arrivent pas tout seuls.
Je pense qu'on peut y arriver. On peut être capable de faire à son échelle des petites choses. Alors oui, évidemment, je ne vais pas révolutionner le monde et puis donner une maison à toutes les personnes qui mériteraient d'en avoir une, plutôt que celles peut-être qui en ont deux, ils pourraient peut-être partager la leur si elle est vacante. Mais en tout cas, de moi, ce que j'ai pu avoir le privilège... du coup, la chance de côtoyer dans ma vie, c'est que j'ai pu aider des personnes justement en situation difficile, et notamment des sans-abri, donc dans d'autres contrées du monde. C'est juste peut-être
quel
passé.
Pays, quel endroit?
Le Canada.
Voilà. Vous avez vécu pendant
quelques
combien...
années, oui.
Pendant
quelques
combien de temps?
Deux ans.
Deux ans.
Deux ans, oui.
Quelle partie du Canada?
Alors, j'étais sur Montréal. Après, j'ai voyagé du coup dans l'intérieur, mais vraiment, j'étais plus basée sur Montréal, et j'étais justement en bénévole dans une association. Donc, qui aidait les personnes sans abri, à plus de 55 ans. Et je passais tous mes dimanches, en fait, à préparer à manger à ces personnes-là, à jouer à des jeux de société à ces personnes-là, juste à être une oreille attentive, juste une écoute. Donc, souvent, on ne demande pas grand-chose, c'est juste à être écouté, à être vu, à être regardé. Moi, en Guyane, quand je fais du vélo, je pédale tous les jours pour aller jusqu'à mon association, jusqu'à mon domicile. Je croise énormément ces personnes-là, ne serait-ce que de les regarder déjà, de dire « Ok, vous êtes là, vous existez », leur dire bonjour. Moi, ils me répondent à chaque fois. Hein. ils me connaissent même, hein. Je passe devant, bonjour, bonjour. Si je peux, que j'ai quelque chose voilà, à grignoter, forcément, je vais essayer. Voilà, je peux donner quelque chose parce que je le peux. D'autres pourront peut-être plus. Mais je pense que ça peut commencer par là. Je pense que ça peut commencer par des petits combats qui peut-être vont faire en sorte que ben, il va y avoir des mouvements plus gros, tout simplement.
Comment voyez-vous à moyen, long terme, évoluer cette passion que vous avez pour l'art?
Je dirais la faire, la regrouper avec d'autres personnes. Quand je vois qu'on est 5 personnes à avoir fait des œuvres, je me dis pourquoi pas faire une plateforme en Guyane d'illustrateurs qu'on pourrait mettre à profit en fait, voilà, au bénéfice des associations qui ont peut-être besoin d'affiches et de designers, alors qu'ils ont peut-être des gens en Guyane qui sont là et encore un petit peu dans l'ombre et qu'ils attendent que d'être mis en lumière. Ça pourrait être une belle perspective, je pense, vraiment. Donc ça peut être des projets associatifs, des projets collectifs.
Et pour le moment, rien de concret.
Déjà, je trouve que d'être là, pour moi, c'est déjà, je pense, une belle réussite et une belle reconnaissance du travail que j'ai pu faire 35 ans en arrière, parce que quand même, j'ai 35 ans et que ben, j'ai été vue pour la première fois d'un regard extérieur ben, là, aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est déjà une grande satisfaction, c'est une grande avancée.
Et vous avez obtenu quel quoi pour ce, comme prix ? Dans le cadre de ce concours.
Alors moi, c'est l'association Toucan et Locan qui m'a décerné donc un prix. Après, ce que vous voulez, la désignation du prix. Donc c'est un, il me semble que c'est un bon d'achat donc de 150 € chez des partenaires donc de Toucan et Locan. Donc je n'ai pas encore du coup les organismes, mais pour moi déjà le j'avais déjà gagné quand on m'a dit que j'avais été présélectionnée dans les 30 œuvres. C'était déjà pour moi c'était déjà une grande victoire, vraiment.
Et vous comptez y participer l'année prochaine, au prochain concours ?
Ah oui, j'aimerais ça. S'il n'y a pas de restrictions pour, oui, bien sûr, évidemment. Surtout que les thématiques, si je m'abuse, que j'en ai vu quelques-unes, sont déjà très, très inspiratrices.
Quel est votre dernier mot, puisque nous sommes sur une radio universitaire, aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes dans le monde, puisqu'on est également sur les réseaux sociaux ?
Mais je dirais aux jeunes de croire en leurs compétences et à leurs capacités. Tout ne se construit pas en quelques minutes. Parfois, le travail est long pour arriver jusqu'à une petite victoire, mais on est capable. Je pense qu'on est capable et je pense que l'art est un bon moyen pour faire passer justement des messages positifs pour encourager visiblement ce monde qui a l'air d'aller mal, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde à guérir.
On pourra peut-être un jour découvrir vos œuvres dans le cadre d'une exposition à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane.
Qui sait-on jamais, mais en tout cas, oui. Alors, j'ai su ça, oui, tout à l'heure, à la semaine prochaine, visiblement, du coup, à la préfecture, c'est ça, avec toutes les autres œuvres, il me semble. Donc, c'est ça. Donc, vous voyez, déjà, il y a une avancée qui est faite. Certains vont être mis en lumière. On attend... peut-être les 101 œuvres qui seront sur ce catalogue, qui mériteraient d'y être, j'imagine.
Ouais, donc le rendez-vous est pris à la préfecture. À partir de quand ? Quel jour ? De quelle date à quelle date ?
19 mars.
19 mars,
c'est ça.
D'accord. Bah, écoutez, c'est noté. On ira donc découvrir et apprécier surtout vos réalisations à la préfecture de Guyane, Stéphanie Delcros. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée sur Radio Mayuri Campus. Une interview à retrouver en multidiffusion sur nos antennes de Cayenne, Saint-Laurent-du-Maroni et partout dans le monde sur les réseaux sociaux. Merci à vous. Au revoir.
Merci. Au revoir.